Éric Bataillon.
Bonjour. Elle avait filmé Raqqa en Syrie au péril de sa vie. Elle est aujourd'hui réfugiée à Paris. France 24 a rencontré cette jeune femme de 26 ans et lui a consacré un reportage Rebelle de Raqqa. Nous en parlons avec l'une des réalisatrices. Quel rôle les femmes ont-elles joué dans les soulèvements arabes de ces dernières années? Cette interrogation est l'objet d'un travail artistique multimédia basé sur des témoignages et présenté sous forme de 5 portfolios. Le premier est consacré aux femmes algériennes du soulèvement de 1988. À suivre également dans cette émission, la revue de presse « Regards croisés sur Israël et le monde arabe » avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire.
Orient Hebdo sur RFI.
This is life in Raqqa, Syria.
With a hidden camera recording as she walked, a Syrian woman risked arrest or worse.
Sa ville, c'est Raqqa, le bastion de l'organisation de l'État islamique. Nous l'appellerons Razan. À 25 ans, c'est la première fois qu'elle se glisse sous un niqab.
Elle déambule dans la ville de Raqqa, où les djihadistes font régner leur loi depuis mars dernier.
Le monde entier a vu les images que Razan, une activiste syrienne de 26 ans, avait tournées clandestinement à Raqqa, cette ville de Syrie devenue le siège de l'organisation État islamique. Nous les avions vues sur France 24 au printemps dernier. Depuis, Aya El Ali, le vrai nom de Razan, a dû fuir son pays et a trouvé refuge en France en septembre. Bonjour Liana Saleh.
Bonjour.
Journaliste à France 24, avec une autre journaliste indépendante, Claire Billet. Vous avez consacré un documentaire à Aya. Rappelons que son histoire a commencé lorsqu'elle vous a fait parvenir ces images tournées en caméra cachée, c'était l'année dernière.
Tout à fait. Razan, ou Aya, l'a envoyé ces images en mois de juillet de l'année dernière. On a vu les images qui étaient bien sûr tournées clandestinement et une interview avec elle, mais elle était glissée sous un niqab. Et à partir de là, moi je l'ai contactée, j'ai commencé à parler avec elle, comprendre en fait qu'est-ce qui se passe exactement à Raqqa, qui est cette jeune femme, pourquoi elle a fait ça, pourquoi elle voulait montrer ces images. On sait très bien que voilà, enfin Raqqa, du moment où c'était contrôlé par l'État islamique, aucune image n'est sortie de là-bas. Donc les images de Aya, elles étaient vraiment les premières images de Raqqa sous les contrôles de l'État islamique. Quelques jours après la diffusion du reportage, c'est France 24 en arabe, en anglais, en français, c'était la veille des débuts de frappe de la coalition internationale, Aya a commencé de recevoir des messages de menaces des gens de l'État islamique. Bon, tout de suite après, on l'a aidée en fait à sortir de la Turquie et elle est venue en France. Et on a découvert le vrai visage de cette jeune femme qui est courageuse, elle est toujours. Et voilà, on a fait ce documentaire.
Alors, lorsqu'elle a quitté Raqqa, rappelons quelle était la situation dans cette ville très particulière de Syrie.
Alors, Aya, elle a fait beaucoup des allers-retours à Raqqa. Donc, elle est allée deux fois pour tourner là-bas, en mois de janvier et mars 2014. Quand elle a quitté le Raqqa, c'était vraiment à 100% contrôlé par l'État islamique, qui a mis sa main, en fait, sur tout ce qui est social, politique, dans la ville de Raqqa. Elles ont commencé à obliger les femmes de mettre le niqab. Elles ont interdit les enfants d'aller à les écoles normaux. Donc, maintenant, voilà, on sait qu'il y a il y a toujours des écoles, mais sous le charia islamique.
Alors, Aya arrive à Paris, c'était donc en septembre dernier. Vous avez décidé de continuer d'une certaine façon le reportage. Vous avez rencontré une jeune femme qui est dans quelle situation morale aujourd'hui? Comment est-elle?
Elle va mieux, surtout que voilà, elle a obtenu l'asile politique et sa famille va rejoindre à elle d'ici quelques jours, heureusement.
Ici à Paris?
Dans une ville française.
Dans une ville française, oui.
En France, mais
on ne dira pas où.
Oui, on ne dira pas où. Donc elle va mieux, mais bien sûr, enfin, elle est toujours en nostalgie pour son pays, pour son histoire. C'est une activiste, donc maintenant, voilà, elle doit apprendre tout à nouveau, la langue, la culture, la nouvelle vie, ce qui n'est pas facile, ce qui n'est pas évident, non seulement pour elle, mais pour tous les réfugiés syriens qui sont en France ou en Europe. Quand on a rencontré Aya pour la première fois, on voulait pas faire une suite des reportages. C'est-à-dire, on a vu ces images, c'est une journaliste citoyenne qui a tourné avec sa caméra, mais qui est-elle? On voulait donner un perspective plus humain que journalistique à ce reportage, sans notre voix off en tant que journaliste, mais vraiment, on voulait donner la parole à elle et à son amie pour raconter son histoire du début de la révolution en mars 2011 jusqu'à présent.
C'est une jeune fille combative?
Tout à fait.
Elle aurait envie de retourner en Syrie.
Tout à fait, tout à fait. Je l'ai eu au téléphone il y a quelques jours. Elle m'a dit, moi, s'il y a un seul endroit qui est sécurisé en Syrie, je reviens. Elle veut rentrer en Syrie, c'est son pays. Mais pour l'instant, voilà, elle est là. Elle a commencé aussi à apprendre à comment vivre ici. Mais son rêve, c'est bien sûr de retourner.
Est-ce qu'elle est toujours menacée au cas où elle reviendrait en Syrie, par exemple? Et est-elle menacée ici en France?
Oui, elle a reçu des messages de menaces juste après l'attentat de Charlie Hebdo, parce qu'elle a posté sur sa page Facebook un message de solidarité avec tous les journalistes de Charlie Hebdo. Après la sortie du film, elle a reçu aussi quelques messages de menaces. Je pense pas qu'elle est vraiment menacée en France. Elle est plus en sécurité ici qu'en Turquie ou en Syrie.
Merci Liana Salé, je renvoie à votre documentaire La Rebelle de Raqqa, 24 minutes que l'on peut voir sur le site de France 24.
Merci beaucoup Eric.
Orient Hebdo sur RFI.
Que reste-t-il de l'engagement des femmes algériennes de 1988? Ces femmes qui, durant la longue guerre civile qui a profondément marqué ce pays, sorte de printemps arabe avant la lettre, ont représenté un bastion de résistance à l'islamisme et à l'obscurantisme. Nous en parlons avec Camille Leprince, réalisatrice de Ma Joconde, Ma Guernica, Mon Amour, une série de 5 articles avec portfolio sonore, dont Orion Hebdo vous a déjà parlé début mars. Bonjour.
Bonjour.
Il s'agit de replacer les femmes au sein des révolutions de 88 en Algérie, mais aussi plus récemment en 2011 en Tunisie ou en Égypte. Le premier de ces 5 portfolios est donc consacré aux femmes algériennes, des femmes qui, après la décennie noire, se sont mobilisées sur la question des disparus. Camille Leprince, quel témoignage avez-vous recueilli pour illustrer ce portfolio?
Oui, alors j'ai choisi en particulier le témoignage de Habiba Janine, qui est à la fois poète, à la fois réalisatrice et puis qui a fondé une école de documentaire qui s'appelle Béjaïa Doc. Cette femme, elle incarne réellement le rapport en fait d'un engagement des femmes en tant que gardienne de mémoire dans leur pays. Ce que je veux dire par là, c'est que en fait Habiba, quand on lui demande justement quel est son rapport à la révolution, déjà elle va dire pour moi c'est pas un mot qu'on peut utiliser à tort et à travers parce que je viens d'une tradition militante. Ensuite, pour elle, en même temps, elle dit voilà, on peut pas empêcher les gens d'employer un mot à partir du moment où ils ressentent que eux, ils vivent une révolution. Donc, tout est une question aussi de perception. Pour elle, elle revenait sur 88 en disant que à l'époque, on n'avait pas vécu ça comme une réelle révolution, mais elle disait on utilisait le mot intifada, qui signifie révolte. Et puis, c'était vraiment une demande en fait de changement social, avec derrière un fort potentiel de violence déjà, puisque elle, comme elle le dit, il y avait un enquistement de la colère et le pouvoir ne parvenait pas en fait à laisser s'exprimer les revendications. Il y a eu plutôt un remaniement qu'une réelle révolution. Ce qui a d'ailleurs après conduit au fait que comme les cadres de dialogue étaient un peu biaisés par l'État, il y a eu aussi cette violence qui s'est exprimée.
Et qui explique aussi que cette révolution, enfin cette révolte, ait duré finalement si longtemps.
Oui, alors cette révolte s'est vraiment transformée en guerre civile petit à petit. Et comme le dit Habiba Janine, au départ, il y avait une découverte de nous tous. On se retrouvait, ça touchait toutes les couches de la société. Ça a commencé déjà dans les années 80 avec le mouvement culturel berbère. Puis ensuite, il y a eu les femmes qui sont sorties en 84 dans la rue lorsqu'il y a eu la promulgation du code de la famille. Ensuite, il y a eu un ras-le-bol social en 86 exprimé dans d'autres villes qu'Alger qui étaient Constantine et Sétif. Puis 87, grève ouvrière, l'université qui représente ensuite vraiment le mouvement étudiant, un espace où on parle d'autonomie, où les choses peuvent commencer à se faire en dehors de l'autorisation du parti. Et puis après, elle dit, bon bah, au départ on s'est retrouvés ensemble, on s'est découvert, et ça c'est ce que disent d'autres gens aussi de d'autres révolutions qui se sont passées plus tard, on s'est découvert tous ensemble au-delà des différences sociales, etc. Et puis il y avait une envie de s'exprimer qui était énorme. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve un peu partout. Mais elle dit plus tard, au fur et à mesure, on a vu cette violence s'exprimer et finalement on la découvrait au jour le jour en même temps qu'on la vivait. Et on n'avait pas de recul à l'époque, et ça, c'est une des différences par rapport aux révolutions que connaissent d'autres pays aujourd'hui.
Alors, pour illustrer dans votre portfolio consacré à l'Algérie, cette situation, vous avez des musiques, mais aussi vous avez des poèmes.
Oui, alors Habiba Janine, donc elle vient de sortir un recueil de poésie qui s'appelle Fragments de la maison, et elle le décrit réellement comme quelque chose de l'ordre de la sortie de la sidération, justement. Elle dit que pour elle, la poésie, c'est une forme d'introspection, de retour à soi, alors que le cinéma, c'est plutôt aller vers l'autre. Donc cette forme d'introspection, c'est aussi un regard apaisé qu'on va entendre dans ce poème qui s'appelle « Blanc et le ciel ».
Blanc et le ciel, sourdes sont les rafales de vent. L'air se remplit de milliers de grains de sable. La tempête n'attend plus, elle envahit ma ville. Des oiseaux dont j'ignore le nom regardent avec moi la colère du monde. Je m'adosse à mon mur d'argile, j'immobilise mes gestes par respect à leurs ailes fragiles. Plus de renvol peut les tuer. Blanc est le ciel, sourdes sont les rafales de vent. Je reviens à la poésie, le seul port possible pour faire accoster mes doutes, pour regarder passer les tempêtes qui déplacent les dunes et éloignent les silences. Les temps se confondent. Ici, le ciel est blanc. Il ressemble à nos égarements, à nos défaites, à nos fuites.
Pourquoi les femmes ? Pourquoi ce sont les femmes qui se sont mobilisées particulièrement en Algérie ?
Parce que les femmes, d'abord, sont les mères des enfants qui étaient parfois soumis aussi à la pression des prêches virulents dans les mosquées. Donc, il fallait aussi sauver ces enfants de ça. Les femmes étaient aussi les premières attaquées par ces prêches virulents. Donc, il y a eu des sorties de femmes, notamment à Alger. Et puis, il y a même un abécédaire, en fait, qui a été fait des luttes des femmes, qui regroupe tous les discours qui ont été prononcées à l'époque pour contrer le discours islamiste. En même temps, les femmes, elles étaient aussi mobilisées contre les violences des autorités publiques, donc pour aussi sauver leurs enfants qui étaient parfois enlevés, comme c'est le cas pour les disparus, mais qui étaient parfois victimes de tortures, victimes de violences. Voilà, les femmes, elles se sont mobilisées dans leur ensemble, avec toutes leurs différentes facettes, je dirais, que ce soit dans le cadre familial ou dans le cadre public.
Les femmes dans les révolutions, merci Camille Leprince.
Merci à vous.
Je rappelle que vous êtes réalisatrice de Ma Joconde, Ma Guernica, Mon Amour, une série de 5 articles avec portfolio sonore sur les femmes dans les printemps arabes. Vous êtes également chargée de mission Maghreb Machrek au CCFD Terre Solidaire, le comité catholique contre la faim et pour le développement.
Pour nous écrire, orient.hebdo@rfi.fr.
Nous allons maintenant au Caire et à Jérusalem où nous attendent Alexandre Bouchanti et Michel Paul pour lire la presse de la semaine. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Bonjour Michel.
Bonjour.
Alexandre, la presse du Golfe a accordé une large place au sommet du Conseil de coopération auquel le président français François Hollande a participé comme hôte d'honneur.
Oui, la sécurité du Golfe fait partie de la sécurité de la France. C'est le titre qu'Al-Sharq Al-Awsat donne à cette conférence et il précise que c'est une déclaration du président français François Hollande. Alors l'occasion pour de nombreux éditorialistes de souligner le rôle croissant de la France en ce qui concerne la sécurité du Golfe. Alors, il souligne la présence d'une base aéronavale française aux Émirats et, évidemment, la récente vente de 24 Rafales au Qatar. Alors, selon des éditorialistes, ce rôle accru de la France est surtout dû aux préoccupations des pays du Golfe qui craignent un désengagement américain du fait du rapprochement entre Washington et Téhéran. Alors, certains rappellent les positions françaises plus favorables à la cause arabe, traduisez la cause palestinienne, et rappellent les positions du général de Gaulle et de Jacques Chirac. Pour plusieurs analystes, ce rôle de la France pourrait s'accroître encore plus dans un proche avenir. Et puis, il y a des éditorialistes qui estiment qu'en fait, il faudra aussi que les pays du Golfe comptent sur eux-mêmes et sur les Arabes. Il faut rappeler qu'il y a une force d'Arabes d'intervention rapide qui est en cours de formation avec notamment une participation égyptienne, jordanienne et du Golfe.
Également, Alexandre, de nombreux hommages au prince Saoud Al-Faisal, inamovible ministre saoudien des Affaires étrangères pendant 40 ans.
Oui, le Kissinger des Arabes, titre un journal en référence au célèbre secrétaire d'État américain Henry Kissinger. Alors les journaux rappellent que le prince Saoud el-Faisal a vu 12 secrétaires d'État se succéder à la tête de la diplomatie américaine quand il était ministre saoudien des Affaires étrangères. Et de citer le dernier en date, John Kerry, qui affirme que Saoud el-Faisal était non seulement le plus expérimenté des ministres des Affaires étrangères, mais aussi le plus sage. Rappelons que Saoud el-Faisal, qui est âgé de 75 ans, a été ministre des Affaires étrangères de 1975 à 2015.
Michel Paul, la formation du quatrième gouvernement Netanyahou fait la une de la presse israélienne. Une réussite in extremis, mais ce n'est pas ce que Netanyahou espérait.
Oui, en tout cas, c'est l'événement de cette fin de semaine. Et finalement, le Premier ministre pressenti a réussi à former une coalition. Il avait jusqu'à minuit mercredi soir. Titre dans Yediot Acharonot, 22h55, il y a un gouvernement. Comme toujours en Israël, les problèmes se résolvent à la dernière minute. Pour Mariv, cela donne le quatrième gouvernement Netanyahou prend la route. Mais Eric, c'est loin d'être la coalition idéale pour le Premier ministre. Aretz, dans un éditorial, le souligne dans son style particulier. C'est une affaire à suivre. On risque d'assister à des scènes effroyables. Un autre article fait état de l'incroyable saga de la formation du gouvernement qui a finalement pris fin. Une coalition avec une courte majorité, 61 députés sur les 120 que compte la Knesset. Et les journaux citent Netanyahou qui proclame « 61 c'est bien, mais plus c'est mieux ». Avec des commentateurs sur le véritable but de Bibi, inclure le parti travailliste ou du moins quelques-uns de ses députés dans sa coalition. C'est ce que souhaite le peuple, affirme un chroniqueur quelque peu sarcastique. D'autres soulignent qu'il était inutile d'avancer les élections pour arriver à ce piètre résultat.
D'autant, Michel, que c'est un petit parti qui a réussi à obtenir le maximum.
Oui, avec 8 députés seulement, c'est le grand gagnant de la guerre des nerfs qui a été menée pendant 6 semaines, le parti du foyer juif à Beit HaYehudi. Dans tous les journaux, on trouve la photo d'Ayelet Shaked, le jour de son 39e anniversaire. Elle décroche le portefeuille de la justice. Le chef de file du parti l'affirme. Le nouveau gouvernement est celui de tous les Israéliens. Mais les journaux décomptent les différentes réformes que le parti entend mener à bien, notamment relativiser le pouvoir du judiciaire face à l'exécutif et aussi renforcer l'aspect juif du pays. Pour les commentateurs, il est clair que le foyer juif devient tout puissant, bien au-delà de ses proportions réelles.
Alexandre, des journaux arabes se font l'écho d'une polémique en Irak autour du changement de drapeau et d'hymne national.
Oui, l'objectif est de se débarrasser du drapeau et d'un hymne qui ont été hérités de Saddam Hussein. Alors le drapeau actuel, rouge, blanc et noir, date en fait d'avant Saddam Hussein, de 1963. Il comprenait 3 étoiles vertes sur le blanc qui symbolisaient une union éphémère qui avait eu lieu entre l'Irak, la Syrie et l'Égypte. Alors en 91, après la guerre contre l'Iran, Saddam Hussein a rajouté « Allahu Akbar, Allah est le plus grand » entre les étoiles. Et puis en 2008, on a enlevé les étoiles, mais les couleurs sont restées inchangées. Alors il y a des propositions de toutes sortes, avec des croissants, des étoiles, un peu de tout et de changements de couleurs, mais les diverses forces politiques du pays, qu'elles soient chiites, sunnites ou kurdes, sont complètement divisées et donc visiblement on n'aura pas de nouveau drapeau.
Michel, un jeune soldat d'origine éthiopienne roué de coups par 2 policiers et un clip vidéo qui a provoqué une gigantesque manifestation.
Les journaux sont unanimes, c'est une des manifestations les plus violentes qu'ait connue Israël. Les médias publient la réaction d'un député arabe. S'il s'était agi de citoyens arabes, eh bien, il y aurait eu des morts. La place Rabin à Tel Aviv est qualifiée de place de la colère. La police a perdu le contrôle, estiment les éditorialistes. Les juifs éthiopiens protestent contre les violences policières à leur égard et aussi le racisme en Israël. Un commentateur estime que le racisme anti-arabe rejoint la haine de tout ce qui est différent. On en a marre d'être gentil, affirme un manifestant au quotidien Mariv. Une manifestation non légitime, proclame le chef de la police. Et le Premier ministre reconnaît que des erreurs ont été commises.
Pour conclure, Michel Paul, votre photo du jour.
Eh bien, c'est une caricature. On y voit Bibi Netanyahou, le visage ensanglanté, qui rampe jusqu'à la résidence présidentielle pour annoncer « ça y est, j'ai réussi à former un gouvernement ».
Merci Michel, merci Alexandre. À la réalisation, François Porcheron. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site www.rfi.fr ainsi que sur notre page Facebook. Bonne semaine, à samedi prochain. Tout de suite, un nouveau journal sur RFI.